Nous sommes mercredi 9 mai 2018 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar.
J'adore ton...
Bon, ce... non, mais ça suffit.
J'adore ton... What? Ton conducteur.
Quoi? Mais arrêtez. Mais regarde mon conducteur. Bon, bonsoir à tous. Vous voyez que cette émission est préparée, il y a un conducteur.
Ouais, bon, par contre, il est lol. Mais...
Oh, ça va, c'est bon, on fait ce qu'on peut.
Ouais, je sais pas, il y a Méduse, il n'est pas là depuis 15 ans, donc...
Oui, non, mais d'accord. T'es obligé de révéler toutes les
ficelles, les astuces, les secrets.
Oui, voilà. Parce que après...
Journalisme totalement. Journalisme...
Non, mais voilà, mais après, tu... Non, mais bientôt, elle va publier sur Instagram directement les conducteurs, les toffes du truc.
On n'a même pas entamé le sujet qu'on s'en est déjà détourné. Hein. Je tiens quand même à dire qu'on a traité très très fort.
Parce que je fous le bordel, sinon.
Bon, alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Salut.
Est-ce que tu as fait le community manager comme il faut?
Écoute, je suis en train de taper des conneries, là.
Voilà. Bonsoir Muse.
Bonsoir.
Muse qui va juste nous rejoindre pour le tout début de l'émission. Non, interdit, c'est pas tout de suite. Non, ça suffit de piocher dans le truc de Kaouette. Ça suffit. C'est bon, là.
Terrible. Des vrais enfants.
Nous allons parler de Donkey Kong Country. Alors, pas Returns, pas Tropical Freeze. Donkey Kong Country, l'original, le seul, le vrai, celui de Rareware, celui de 1994, celui qui nous a fait nous chier dessus, littéralement... quand on a vu en disant putain mais c'est trop ouf, la Super NES est capable de faire des trucs en 3D complètement foufou alors que c'est pas du tout vrai.
Ouais, je me souviens. Ouais.
Oui, fais le malin. Je te rappelle que c'est à cause de Donkey Kong Country, enfin je raconterai ça après. Bref. Non mais ceci, non, on va pas y arriver. Déjà qu'on est à moitié dans le fil de pas le fil, donc c'est compliqué. Uh-huh. Mais nous allons commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité et nous allons commencer par. Par déboucher, parce qu'on n'a pas été invité au pot d'arrivée de Tonton Fufu, hein, et... comment il s'appelle, Fukushima.
Au revoir, président.
C'est quoi son nom?
Furukawa.
Fukushima, donc.
Fukushima,
non. Donc, on n'a pas été invité au pot de départ de Tonton Kiki, grosse déception.
Ouais.
Kimishima, hein, pour les gens qui voilà, ne s'y suivent pas. On n'a pas non plus été invité au pot d'arrivée de Tonton Fufu. Fukushima, donc, je me rappelle. Donc, du coup... Ah, donc on va se faire un petit apéro, hein.
Ah. Allez, chin.
Ah, la mousse, c'est bien.
Ah.
Santé.
Mm-hmm.
Alors, ce qu'on va faire...
Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est ça.
Alors... Beurre. Ah, c'est une noix de cajou, en fait. Hein. Techniquement.
Une émission vegan.
C'est écoute. Extrêmement radiophonique, hein, ce qu'on fait. J'adore, professionnel. C'est du journalisme total.
Eh, yeah. Hey, Michel, tu revois un peu de moucheux?
Ah oh, bah.
Allez, Robert, mets-moi sa petite sœur.
Robert qui est prêtre, rappelons-le. C'est bon, on a rempli le quota. Non, et voilà. Parce qu'on n'a pas été invité, mais on n'en a même pas parlé.
C'est vrai.
Parce que c'est vrai que. Tonton Kiki, qui était donc. Vice-champion du monde des lunettes ridicules, a été remplacé par Tonton Fufu, qui est champion du monde de l'arrêt au milieu 1983.
Yeah. Quelle classe, on dirait un vrai Playmobil.
Voilà, un financier, une vraie tête de nouache, c'est-à-dire que là, c'est pas raciste.
Le doute n'est pas permis. Ouais.
C'est la réalité, il a vraiment une tête inratable. On sait pas ce qu'il va faire pour l'instant, on sait pas s'il va présenter du Nintendo Direct ou des choses comme ça, ça m'étonnerait. Tonton Kiki ne l'avait pas fait.
Non.
Par contre, Tonton Kiki était quand même monté sur scène pour la présentation de la Switch pour démarrer le show.
Wow. Oui, ah, non, maintenant, les directs, c'est le mec de la Switch qui l'a fait.
Il y a pire comme prise de risque.
Oui, le mec a pas... Voilà, mais enfin, il est quand même arrivé en disant « Bonjour, je suis Tonton Kiki, je suis le... I'm the boss. » Et voilà,
et je souris autant que le mec de Electronic Arts.
Boss par intérim.
Oui.
Et finalement, du coup, Tonton Kiki... Finalement, du coup, Tonton Kiki sera pas resté très très longtemps. C'est un peu la tristesse.
Non, mais comme disait Ergi, ils avaient annoncé que c'était pour une transition.
Bah, ils avaient annoncé que c'était... Mais en même temps, la transition, là, c'est un an, il a fait. Un an et demi.
Je sais plus.
Il ouais, a remplacé un peu au pied levé notre regretté...
Iwata.
Était 2015, hein. Donc presque 3 ans.
Ah oui, quand même.
Ah oui, le temps passe vite.
Ah merde, je pensais que c'était plus... C'est vrai que Iwata, ça nous a un peu...
3 ans. Non, mais en fait, c'est toujours l'esprit d'Iwata qui dirige Nintendo. On le sait pas.
C'est beau.
Je vous rappelle qu'Iwata était dans chaque Switch produite jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça.
Le truc du golf, là, c'est ça ?
Exactement.
Ouais. Ils l'ont retiré ?
Apparemment, ils l'ont retiré dans une mise à jour de firmware un peu après que ça a été découvert, en fait.
C'est dommage.
Bah, c'était un bel easter egg, c'est bien que les gens s'en soient rendus compte, je trouve ça cool que les gens l'aient vu. Maintenant, une fois que les gens l'ont vu et le savent, c'est peut-être pas la peine de le garder ad vitam aeternam.
Non, puis comme ça, on pourra te le vendre avec l'abonnement.
Oui, oh, ça va, c'est bon. Je sais pas pourquoi tout le monde, alors on va peut-être parler du vrai tour de table de l'actu, il y a Mecton qui voulait parler de la fin de Mitomo.
Oui, non, pas que. Non,
quoi
non. Attention, Mitomo, c'est fermé. Voilà, c'est fini.
C'est déjà fini ?
Tout le monde s'en fout.
Non, enfin, bon, il vous reste encore 30 jours pour récupérer des points platine si vous aviez des missions en cours dessus. C'est le truc où il faut cliquer sur accepter là sur My Nintendo. Donc les points platine, c'est les points un peu pérables là, qui servent juste à débloquer des fonds d'écran.
Ah oui. C'est ceux qui sont moins bien que les points or.
Les points or, ouais, que tu achètes avec du vrai argent en achetant des jeux.
Par exemple, ou en achetant des jeux dématérialisés.
Avec de Dieu l'argent.
C'est ce qui m'a permis d'avoir l'extension Splatoon 2 Octo Extension pour moins de 10 balles. Je vais pas venir
ouais, c'est pas mal, ouais, mais. C'est pas mal. Non, sinon j'avais une vraie actu. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, dans le premier Nintendo Direct sur les Indies, on voyait des premières images de Runner 3. Donc la suite de Runner 2, qui était elle-même la suite de Runner 1. C'est vachement bien foutu.
Putain, sans déconner.
Ouais, en Beat Trip Runner, le premier. Alors l'info du jour, enfin des derniers jours, c'est que dans le nouveau trailer de Runner 3, la voix off, c'est Charles Martinet. Donc la voix
It's
de Mario.
Me, Mario.
Exactement. Donc il fait la voix off du trailer. Donc on apprend au passage que dans le jeu il y aura quelques persos en caméo, donc Shovel Knight hein, qu'on retrouve partout en ce moment. Et après c'est parti dans le What the Fuck. Donc on a le Jack Black de Brutal Legend qui est là-dedans.
Oui, pourquoi pas.
Voilà, et le gros pourquoi pas, c'est qu'en personnage jouable il y a Charles Martinet.
Parce que fuck you.
Parce que voilà, parce qu'on peut.
Parce qu'on a toujours attendu Reggie dans Smash Bros. Hein.
Mais Lia, c'est dans Donkey Kong.
Oui. Non mais vraiment, il y a des gens qui attendaient vraiment Reggie dans Smash Bros.
Putain.
Avec des catchphrases genre My body is ready quoi. On était... Non mais, Reggie, My body is ready, fils aimé, et quand même, ça aurait eu une gueule monstrueuse, Reggie, fils aimé. Donc, le truc, ça aurait été tellement 20e degré.
Yeah. Mais d'ailleurs, ils avaient fait l'annonce d'un Smash Bros comme ça, où il y a Reggie et Iwata qui se mettaient sur la tronche.
Non, mais ça, c'était tout en 2014 pour, pendant l'E3.
C'est ça, c'était ça, oui.
Mais c'était une des bandes annonces de Smash Bros 4. Effectivement, les deux se mettaient sur la gueule. Ce qui était relativement fun en plus.
Ouais, ouais, bien décalé, bien.
Ah, bien comme il faut, quoi, bien comme il faut. Et du coup, je vais terminer ce tour de table de l'actu qui va être un petit peu rapide, mais c'est pas bien grave. Pour vous parler de la compatibilité des Pro Controllers avec Steam. Alors Steam est compatible avec énormément de manettes parce que étant donné que c'est la plateforme de référence sur PC, ils sont un petit peu obligés. Donc en plus du Steam Controller que j'ai là, attendez, regardez, je vous le prouve.
Ah, le truc moche.
Voilà, ASMR de Steam Controller.
Tu le mets de PS4.
Mais moi j'aime bien le Steam Controller en fait, je trouve ça cool.
C'est bien l'utilisation ça.
Bah, je trouve ça pas trop mal, le truc qui manque c'est une vraie croix, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de vraie croix, mais en fait le pavé tactile à droite est super agréable à utiliser mine de rien. Et les gâchettes analogiques avec le petit clic au bout, c'est cool.
Comme sur GameCube.
Comme sur GameCube, qui est quand même la putain de référence dans le domaine.
Comme ça tu peux jouer à Rogue Squadron.
Tout à fait. Tout à fait, sinon tu ne peux pas jouer à Rogue Squadron, et c'est triste. Et Rogue Squadron sur PC c'est extrêmement triste. Parce que c'est très compliqué à jouer. Bref.
Et d'ailleurs, je tiens à préciser que toutes les manettes sont plus ou moins compatibles sur Steam via le Big Picture. J'ai découvert ça tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez une manette, genre le Joy-Con typiquement, vous pouvez, en passant en mode Big Picture, configurer pour qu'elle soit reconnue dans tous les jeux. Voilà.
Tu la chopes comment, en Bluetooth ?
Ouais, en Bluetooth, le Joy-Con est automatiquement reconnu comme le Pro Controller, et vous allez, je crois que c'est dans Afficher, dans Steam, en haut, Afficher, le deuxième menu, mode Big Picture, et vous allez dans les paramètres et vous pouvez configurer comme à la manière d'un X360CE, je crois, c'est ça le logiciel qui permet de de configurer n'importe quelle manette Bluetooth en manette Xbox 360.
Il me semble aussi, oui, pareil. Sur Windows, il y a un truc comme ça, oui. Qui transforme n'importe quelle manette en X input.
Ouais, mais ouais, voilà, est-ce exactement. Qu'il t'affiche la couleur de ton Joy-Con?
Je ne pense pas.
Non.
Alors, quand tu connectes une manette Bluetooth, genre le Pro Controller de la Wii U, quand tu le connectes à un PC, en fait, les 4 LED clignotent tout le temps.
Parce oui, que bah, pareil pour le Joy-Con.
Voilà, ah, K2000 pas...
C'est ça, mais sauf que ça fait pas vu, 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 vu. Ce que j'appelle dans K2000, les LED font du bruit, ce qui est quand même. Voilà, c'est
y'a balèze. Quoi
Il sait pas qui est David.
C'est le. C'était quand on croyait encore au futur de l'an 1999 où.
Oui, t'inquiète, la voiture qui parle.
Où l'IA de la voiture ne s'arrêtait pas juste à la conduire, mais elle te parlait, elle faisait des remarques sarcastiques. C'est quand même beaucoup plus intéressant que les IA qu'on a maintenant.
Je suis désolé, mais un petit Uber qui me gueule dessus parce que. Parce que je fais Nawak au volant, y'a que ça de rien.
Oui, enfin bon, bref. Mais voilà, donc le Pro Controller qui était déjà supporté sur PC, c'est-à-dire que tu pouvais déjà synchroniser avec finalement n'importe quel connecteur Bluetooth et ça marche. C'était le cas aussi du Pro Controller Wii U, qu'on pouvait connecter à n'importe quel PC parce que c'est du Bluetooth, c'est une norme universelle. Et ensuite, tu pouvais le configurer comme une... Il était reconnu comme une manette. Alors moi, je sais que sous Linux, mon Pro Controller était reconnu comme une manette sans aucun problème en Bluetooth. Donc je pouvais le configurer pour jouer sur certains émulateurs et autres. Mais là, maintenant, c'est, on va dire, officiellement reconnu par Steam. Ce qui est quand même pas mal. Au même titre que la manette PS4, qui était reconnue officiellement aussi par Steam, et qu'on pouvait configurer pour certains jeux. L'avantage étant que ça passe par un truc qui s'appelle Steam Input, et qui donc permet de le faire reconnaître de manière à peu près universelle par n'importe quel jeu. Parce que il me semble que ça fait exactement comme l'émulateur effectivement de contrôleur 360 dont parlait tout à l'heure Galaxy, c'est-à-dire que ta manette est reconnue comme une manette de Xbox 360 et comme sur la plupart des PC, des jeux PC pardon, la manette Xbox One ou la manette Xbox 360 sont reconnues nativement, en plus du combo clavier-souris en général. Et ça permet de jouer avec finalement n'importe quel jeu, ou quasiment n'importe quel jeu. Il y a peut-être quelques jeux qui ne le reconnaîtront pas. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est surtout une certaine forme de reconnaissance pour le Pro Controller Switch, qui est quand même une belle évolution du Pro Controller Wii U, qui est plutôt bien foutu. Alors je sais pas s'il reconnaît le gyroscope ou pas, il me semble que oui. Il me semble avoir lu, mais je
n'ai
pas de confirmation. Je crois que sur le Steam Controller, tu as un gyroscope, hein, si je dis pas de conneries.
D'accord.
Donc, au moins t'as les. Peut-être ça peut faire à peu près. Ça peut gérer, tu sais, il y a des pavés tactiles.
Tout à fait, oui.
Alors peut-être que ça émule ça avec le gyroscope.
C'est pas impossible. Faudrait vraiment que j'essaye. Je sais que oui, le Steam Controller, il y a un gyroscope dedans, il me semble.
Je
suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a un gyroscope dedans. Ce qui fait que finalement le seul truc qui manque au Pro Controller, c'est quand même des gâchettes analogiques. Hein, voilà. Ah, c'est toujours la merde. Donc pas bien joué Nintendo, mais globalement, c'est sympa quand même.
Je te confirme, il y en a un. Gyro.
Ouais, mais Gyro. Les gâchettes analogiques, honnêtement, ça sert à quoi? Parce que la seule utilisation que j'en ai caisse. Vu... Ouais, ok. Pour moi, c'était genre sur Hitman Absolution, typique. Quand t'appuies un tout petit peu, mais si tu veux, ça confirmait ton tir. Dans le sens où le réticule rétrécissait, etc.
Mais t'as plein d'autres usages. En fait, dans un jeu de course, ça te sert à accélérer, freiner, donc tu as une certaine précision parce que tu maintiens... C'est pas de l'accélération linéaire, si tu veux, c'est comme une pédale, t'as vraiment besoin de pouvoir appuyer longtemps ou appuyer fort, et ainsi de suite. Ouais.
Dans F-Zero GX, tu pouvais incliner plus ou moins quand t'appuies sur les gâchettes.
Voilà, c'est un autre exemple. Dans Rock Squadron, tu pouvais gérer le thrust, l'accélération, les boosters, je sais pas comment on dit en français, la poussée, c'est ça, de tes réacteurs, comme ça, c'est-à-dire que tu pouvais mettre une toute petite poussée, ou tu pouvais, si tu allais jusqu'au clic, en fait, ça repliait les ailes et t'avais une grosse poussée. Du coup, t'avais quand même une petite variété. Après, il y a d'autres jeux où ça sert beaucoup moins, par exemple, je sais pas, Super Mario Sunshine, la seule chose que ça faisait... C'est quand tu le maintenais à fond, en fait Mario ne bougeait plus, il restait sur place pour pouvoir balancer de la flotte, et quand t'appuyais un tout petit peu, il balançait juste un jet d'eau. Donc ça, c'est facile à émuler avec deux boutons.
Ouais.
Mais il y a plein de situations dans lesquelles le fait de ne pas avoir de gâchette analogique, c'est un peu dommage. Il y a d'autres situations dans lesquelles on n'en a rien à foutre. Ça dépend du type de jeu auquel tu joues aussi. Mais bon, c'est toujours un tout petit peu dommage, je trouve, d'avoir du HD Rumble, enfin vraiment plein de features de ouf, et derrière d'être coincé avec genre, oui, mais il n'y a pas de. Enfin voilà, tu vois, ça a l'air con. Je trouve.
Mais c'est vrai. Mais d'un autre côté, ouais, c'est vrai que si Nintendo ça leur sert pas. C'est... Bon, après, ouais, c'est con de brider pour les autres jeux, mais Peut-être ça augmente le prix, je sais. Honnêtement, je sais pas.
Et je sais pas si ça aurait été faisable de faire des Joy-Con avec gâchette analogique.
Problème de place.
Non, ça, ouais, pour le coup, là, je pense que c'est plus la place. Hein.
Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est peut-être compliqué. On se rend pas bien compte, mais faut quand même. Alors, je sais que sur, par exemple, sur le Steam Controller, l'analogique, c'est-à-dire que là, entre la position de repos et la position complètement cliquée, il y a vraiment moins d'un centimètre d'écart. Du coup, si c'est pour faire ça, c'est peut-être pas la peine, tu vois. C'est une gâchette analogique. Celle de la Xbox One, par exemple, sont vraiment très bonnes parce que tu sens vraiment.
Ah bah, les manettes Xbox One, de toute façon. Enfin, les manettes Xbox en général, elles sont vraiment géniales.
J'avoue, elles sont pas mal, ouais.
Elles sont vraiment géniales, mais c'est vrai que c'est dommage. Après, en soi, enfin, ouais, dans les Joy-Con, c'est peut-être un problème de place parce que. Enfin, c'est un potentiomètre dans une gâchette analogique.
Oh, je suppose, oui.
C'est genre un stick à une dimension, quoi, tout simplement.
Alors, sur GameCube, c'est pas le cas, parce qu'en fait, c'est une espèce de glissière et t'as un petit machin à l'intérieur qui donne la position exacte.
Ah oui,
avec un ressort, en fait.
Ils aiment pas les potentiomètres chez Nintendo.
Je sais pas comment c'est branlé dans une manette de PS4 ou une manette de. Ou un Steam Controller ou une manette Xbox One, j'en ai jamais démonté. J'ai démonté une manette de Xbox 360 pour regarder comment c'était foutu, mais j'ai pas fait gaffe à ce détail-là. Donc je peux pas vous dire. Sinon, je vous aurais dit, hein, tout de suite. Hein. Bon, bref, trêve de bavardage. Nous allons attaquer Donkey Kong Country. Mais d'abord, nous allons écouter un petit morceau de la bande originale de Donkey Kong Country 2, qui est une suggestion de monsieur Sirard, à qui j'ai dit la bande originale de Donkey Kong Country 2. Je suis désolé, il n'y a rien d'emblématique. Il me dit, arrête tes conneries, c'est pas possible. Donc la plus emblématique des plus emblématiques, c'est quand même celle de Donkey Kong Country 1, évidemment, parce qu'on y a tous joué, parce qu'on a tous retourné le jeu, parce que voilà.
Oh oui.
Mais celle de Donkey Kong Country 2, il y a quand même des trucs vachement sympas dedans. Et nous allons notamment nous écouter un morceau qui s'appelle Haunted Chase, la course hantée, le pourchassement hanté. Voilà, ça dure à peu près 4 minutes, dans mon souvenir, parce que là, ce qui est génial, c'est que je ne vois pas du tout ce que je fais. Voilà, super, merci beaucoup. Donc, on va se retrouver dans à peu près 4 minutes, donc zappez pas, hein, voilà, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Donc nous en parlons de Donkey Kong Country, la série originale, Donkey Kong Country 1, 2, 3. On va probablement toucher un tout petit mot de Donkey Kong Land.
Game Boy donc.
Sur Game Boy, alors, et Game Boy Color au Japon, parce que j'aime bien ramener ma science. Donkey Kong Country 3 est sorti donc sur Game Boy Color au Japon, et uniquement au Japon, sous le nom alors, Donkey Kong Land 3. Yeah. Et il y a eu un Donkey Kong Country sur Game Boy Advance qui était un portage plutôt raisonnable de la version Super NES, même si, comme d'habitude, sur Game Boy Advance, le son était quand même un petit peu en deçà. Et puis l'écran étant plus petit, la quantité de détails est quand même un petit peu moins élevée, ce qui est un petit peu dommage, mais ça reste un jeu tout à fait raisonnable. Et il me semble qu'il y a aussi un portage de Donkey Kong Country sur Game Boy Color, qui doit s'appeler Donkey Kong Country et pas Donkey Kong Land. Donc voilà, Donkey Kong Country, c'est un peu, voilà, Donkey Kong Country 1, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3, Donkey Kong Land 1, Donkey Kong Land 2, Donkey Kong Land 3, Donkey Kong Country sur Game Boy Color, Donkey Kong Country sur Game Boy Advance. Étonnamment, les autres Donkey Kong Country, à part le 1, n'ont pas vraiment fait de petits. Alors que Donkey Kong Country 2 est probablement le meilleur jeu de la série. Je vais me faire engueuler, là, mais...
Des 3, ouais, non, je suis d'accord.
T'es d'accord, mais c'est au 1 que t'as rejoué.
Mais c'est le 1, j'ai plus de nostalgie sur le premier. C'est un peu particulier, quoi. Le premier, c'est un jeu qui sent le cacao pour moi. Tu sais, ça sent vraiment, voilà, le petit jeu que tu jouais en rentrant en... Putain, j'étais où ? Collège ? Ça doit être ça ? Je sais plus.
Oh et... putain, il est vieux.
Ouais, bref. Bon, tu couperas au montage.
Putain, il est moins vieux que moi.
Oh, pas de beaucoup, je pense. Et alors que le 2, c'était plus le jeu du challenge, quoi. Quand je commençais à être un gamer un peu plus aguerri. Je sais pas si je suis clair, mais...
Si, quand tu commençais à tenter de scorer le jeu, parce que...
C'est ça, voilà, ouais.
Parce que tu pouvais te permettre de scorer le jeu, en fait,
honnêtement. Non, mais le 2 est meilleur. Objectivement, le 2 est bien meilleur.
Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Donkey Kong Country, c'est avant tout une espèce de phénomène culturel. Donkey Kong, c'est un personnage qui était pas à l'abandon, mais presque. C'est-à-dire que le dernier jeu Donkey Kong avec le personnage Donkey Kong, donc le premier qui s'appelle Donkey Kong, où il y a Jumpman qui va essayer de sauver Pauline des griffes du singe, et qui est en fait une atroce... une parodie, mais un atroce postiche de King Kong.
Et coucou Billy Mitchell, si tu nous écoutes.
Coucou.
Ah, ça m'a rendu fou.
Non mais c'est...
Non, mais voilà. on en parlera une autre fois.
Faudra en parler.
Ça m'a trigger.
Mais je voudrais bien consacrer une émission à ça, parce que je pense qu'il y aura des choses à dire, donc effectivement.
Pardon, excusez-moi.
Donc Donkey Kong, le tout premier, est sorti au tout début des années 80, je sais pas si c'est 80 ou 81. C'est peut-être même 79, hein, c'est possible que ce soit un tout petit peu avant.
La version arcade, tu dis ?
La version arcade, oui.
Elle est vendue pour 81 sur Wikipédia, mais...
Elle est vendue pour 81, on va la vendre pour 80. Évidemment, sans compter les portages qu'il y a eu de ces jeux-là sur NES, et éventuellement sur Game Boy, puisqu'il y a eu un portage sur Game Boy de Donkey Kong. Mais voilà, Donkey Kong est, au moment où Rare reprend la main, Donkey Kong est une licence qui est enterrée par Nintendo depuis presque 10 ans. Le dernier jeu qui est sorti licencié Donkey Kong, c'est Donkey Kong Junior Math, pour faire des maths, sur NES. Et c'était en 1984 au Japon. Alors évidemment, c'est arrivé un tout petit peu plus tard aux États-Unis et bien sûr beaucoup plus tard en Europe, mais voilà.
2006.
Oui, à peu près.
Du coup, le Donkey à la con qui a déterré tardi, il est sorti avant le 3, c'est ça ?
Et je pense qu'il est sorti avant Donkey Kong 3, l'original.
Ok.
Parce que je sais pas où il a décoté ça, mais c'est pas... Ah oui, Tonton Tardy nous a fait un petit spin-off des Mario à la con avec les Donkey Kong à la con, et là je dois reconnaître qu'il a fait très 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 fort.
Je sais pas où il a cherché ça, mais waouh.
Il a fait très balèze, je vous conseille d'aller voir sur le dojo, c'est vraiment très balèze. Bref, donc en 94, l'époque où Donkey Kong Country sort, c'est vrai que Donkey Kong est un personnage qui est... Enfin, je veux dire, il a fait des apparitions dans Super Mario Kart, mais c'est à peu près tout, et encore, parce qu'on sait pas si c'est Donkey Kong ou Donkey Kong Junior, puisque c'est celui qui a...
La petite cravate.
C'est Junior.
Un Marcel.
C'est le Junior,
il a
alors.
Pas de cravate. Il a pas de cravate. Il a un Marcel blanc.
Ok, faut que... Ok.
Le design de la cravate où il y a écrit DK, en fait, c'est vraiment le design de Rare.
D'accord.
Qui a rajouté ce petit accessoire. Alors, on sait pas trop pourquoi, mais ils ont rajouté la petite cravate à Donkey. D'ailleurs, je crois qu'il la porte pas en jeu, la cravate.
Non, ça doit être chiant, animé, tout ça.
Bref. Ah, donc, vous connaissez tous la petite histoire, hein. Rareware se fait un max de pognon sur NES, commande des stations Silicon Graphics, qui étaient les premières stations de modélisation 3D à peu près abordables pour les professionnels. Et quand on dit à peu près abordable, fallait compter quand même dans les 50 000 $ la station. C'est-à-dire qu'on est quand même pas dans un petit investissement, hein. Silicon Graphics, c'était le leader numéro 1 de tout ce qui était 3D. Bien avant la naissance d'NVIDIA, de 3DFX et autres. D'ailleurs, toutes ces compagnies-là, NVIDIA, 3DFX, ATI, ont été fondées par d'anciens de Silicon Graphics, quasiment tous. Pour vous donner une idée à quel point Silicon Graphics était vraiment une putain de référence. Et donc, Rareware met au point une technique. Donc, ils modélisent en 3D des personnages, des objets, des choses comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils prennent comme des espèces de captures d'écran de ces personnages, image par image, et ils arrivent à transformer ça en sprite pour la Super NES. Il montre le prototype à Nintendo, un prototype qui, je crois d'ailleurs, au départ n'avait rien à voir avec Donkey Kong Country. Je pourrais me tromper, mais il me semble que ça n'avait pas grand-chose à voir, ni avec Donkey Kong, ils avaient juste modélisé quelques personnages, quelques trucs comme ça, et les avaient animés. Et en fait, la légende veut que les mecs de Nintendo passent leur temps à regarder sous la table pendant le meeting avec Rareware, parce qu'ils ne croyaient pas que ça sortait de la Super NES, ils pensaient qu'il y avait un ordinateur en dessous qui produisait ça, quoi. La légende veut ça, je ne sais pas si c'est vrai.
Ouais, ça fait des belles histoires, c'est bien.
C'est ça, ça fait une belle histoire, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Parce que c'est vrai que la technique est impressionnante par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent en matière de sprite, qui était forcément dessiné, image par image, à la main, et donc avec toutes les limites que vous pouvez imaginer du dessin. Il faut aller faire les contours du personnage, donc il faut aller prendre un pixel de marge. Les ombrés sont forcément... avec des gradients très secs, c'est-à-dire il y a une partie ombrée, une partie pas ombrée. C'est, voilà, on a des images qui sont tout de suite beaucoup plus découpées, beaucoup plus morcelées, qui font beaucoup plus dessin, finalement. Alors que là, ça fait vraiment image de synthèse. La seule contrainte de Rare de ce point de vue-là, c'était de s'assurer que chaque sprite contenait un certain nombre de couleurs. Je ne sais plus si c'est 4 ou 8 ou 16. Mais il ne pouvait pas dépasser un certain nombre de couleurs pour chaque sprite, donc il fallait qu'il fasse attention à ce que les textures 3D qui étaient rendues sur les stations Silicon Graphics ne dépassent pas trop de couleurs et à réduire le nombre de couleurs le cas échéant quand il était transféré sur Super NES. Ceci conduit, la technique en elle-même est assez géniale. Il y a un des mecs de Rare qui disait à propos de Donkey Kong Country, d'habitude les programmeurs passent leur temps à demander aux animateurs et aux graphistes à cette époque-là de dessiner plus de frames d'animation.
Ouais.
Je rappelle, les frames sont dessinés une par une. C'est un travail ultra pénible. Et là, les mecs de Rare disaient non, mais arrêtez, vous nous en donnez beaucoup trop. Parce que forcément, les mecs les mettaient sur les stations Silicon Graph, ils pouvaient te sortir 5000 images pour une animation, ils en avaient rien à foutre. Ça prenait juste le temps du rendu de la station qui devait pas être très rapide non plus. Hein,
quelques heures à l'époque. Ouais.
Quelques heures. Mais ils étaient capables de faire un rendu 3D. Alors, évidemment. Par rapport aux standards d'aujourd'hui, c'est de la 3D un peu dégueu, il n'y a pas encore de vertex, il n'y a pas encore de squelette à animer, donc tout est animé plus ou moins à la main, donc ça fait des animations un peu bizarres, un peu rigides de temps en temps.
C'est des pionniers, c'est pas grave.
C'est un peu des pionniers, et ils arrivent à transférer tout ça sur une Super NES, et du coup Nintendo dit très bien, eh ben, je rachète Rareware, et vous allez faire des jeux pour moi en utilisant cette technique. Et le tout premier jeu qu'ils ont sorti, c'est Donkey Kong Country. Et moi, je me rappelle avoir lu des magazines de l'époque, quand j'avais 9 ans, 8 ans. Et tu regardais les images.
Ça se branlait la quéquette sévère.
Sur les screenshots, yes.
Putain, mais attends, tu voyais les screenshots, surtout que on le voyait pas en mouvement, en fait. C'est ça qui était impressionnant. Tu regardes le truc et tu disais, putain, mais la Super NES est capable de faire ça, mais elle a des capacités cachées. Il y a un processeur caché dedans, qu'on n'a pas vu.
Ah, le fameux processeur caché.
Mais on y a tous cru à l'époque. Non mais attends, t'imagines, ça rendait fou.
Des graphismes pareils. Ils ont utilisé toutes les 16 bits.
Ah mais toutes. Les autres jeux, ils en utilisent que 3 ou 4.
Ouais. Truc de dingue.
Non mais c'était gueudin quoi. Et ensuite, quand tu le voyais en mouvement, mais c'était la folie. Parce qu'effectivement, t'as des animations super détaillées et qui répondent quand même relativement bien.
Oui. Oui.
Les décors étaient ouf, t'avais les palmiers en 3D, les tortues en 3D, les serpents en 3D, tout était en 3D, et nous on était là genre, ah putain c'est trop le royaume de la 3D, alors qu'en fait absolument pas, c'est de la 2D, de la bonne vieille 2D à papa. Mais on y croyait, on était jeunes et innocents. Mm-hmm. Et le truc c'est que c'est un très beau jeu, ça a été une sacrée claque, c'est ce qui a démarré, ou presque, parce qu'il y a aussi Mortal Kombat qui avait fait des personnages digitalisés, mais c'était des acteurs qui étaient filmés, et qui était ensuite incrusté dans le jeu sous forme de sprite.
Et c'était la grande mode à l'époque, les trucs digitalisés, et la moitié du temps c'était moche.
C'était moche parce que c'était des vrais acteurs dans des costumes ridicules. Là, l'avantage de Donkey Kong Country, c'est que c'était quand même des images de synthèse avec un rendu pas trop dégueulasse. Alors quand tu vas regarder les vraies images de synthèse qui étaient produites à l'époque, les mecs se sont quand même un peu cassé le cul pour faire énormément de polygones sur ces personnages-là. T'as pas retrouvé autant de polygones avant la GameCube. Sur N64, on n'était pas capable d'aller faire des personnages avec autant de polygones que ce qu'il y avait sur Donkey Kong Country. Ce qui fait que le rendu était peut-être un peu moins crade que les acteurs filmés, parce que les acteurs filmés sont très plats, en fait. Ça donnait une espèce d'effet d'aplatissement.
Ouais, et derrière... L'animation ultra rigide, ouais.
Oui, parce que t'étais obligé, les mecs ils étaient obligés de donner
des
pauses, voilà. Ça devait pas être évident à faire, alors que là finalement les mecs avaient le loisir de modifier à peu près ce qu'ils voulaient comme détail, comme ils voulaient, quand ils voulaient.
Alors le truc qui m'a sauté aux oreilles là pour le coup quand j'ai relancé le jeu, le son, putain, je m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais ça pour le coup ça a très très bien vieilli quoi. La bande son du jeu, alors je sais que la puce sonore de la Super NES était connue pour être quelque chose de pas dégueulasse du tout.
Très en avance sur son temps.
Et là elle est très très bien utilisée.
T'as des bonnes basses, t'as des musiques tribales, t'as des morceaux super emblématiques dans la BO de Donkey Kong Country. D'ailleurs, je vous rappelle que en fond sonore, vous avez écouté énormément de musique de Donkey Kong Country 2 qui sont de la musique d'ambiance.
Cette dictature, on fait écouter ce qu'on veut, tu sais, ça passe dans l'inconscient, tu vois. Genre.
Ah mais attendez, les gens ont l'habitude de nos beds musicaux de qualité, on nous a déjà félicité pour nos beds musicaux de très bonne qualité. Moi, je suis très très content quand on fait ça. Mais voilà, on a effectivement une BO assez ouf aussi. Alors évidemment, Grand Coeur Coop, hein. Enfin toute la Rare Team, parce que je pense qu'il devait aussi y avoir Graham Norland derrière. Il devait y avoir pas mal de monde à la musique. Mais comme d'habitude, de la musique de qualité. Et pendant un long moment, c'est pour vous dire à quel point Donkey Kong Country est un jeu assez révolutionnaire, pendant un long moment, l'avenir c'était ça. C'était des personnages en images de synthèse, digitalisés, rendus sous forme de sprites. Et en fait, toute l'architecture d'une console comme la Saturn a été pensée en se disant l'avenir c'est ça.
Dommage.
Perdu.
C'est quand même con hein, de baser toute sa console sur une technologie qui n'existe plus.
Bah, en même temps,
et
derrière...
avec des full motion vidéo.
Mais, après, c'est, je veux dire, c'est facile de se dire ça maintenant, mais je veux dire, à l'époque, c'est vrai que même, je sais pas s'il y a un grand écart avec le 2, avec Donkey Kong Country.
Alors,
2.
Pas tant que ça. La suite directe de Donkey Kong, d'un point de vue technique, hein, j'entends, pas du tout d'un point de vue jeu, c'est Killer Instinct en fait, qui a été porté derrière. Et qui utilise cette même technique de personnages, d'image de synthèse digitalisée sous forme de sprite. Et c'est aussi ça qui faisait dire aux gens que c'était l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui imaginaient à l'époque que la 3D temps réel, aussi détaillée que les personnages d'un Donkey Kong Country ou d'un Killer Instinct, ce serait impossible avant au moins 40 ans, quoi. C'est-à-dire que la puissance des machines n'allait pas augmenter à ce point-là. Et en fait, ils avaient presque raison, parce que d'une certaine manière, il a quand même fallu attendre la GameCube, donc 7-8 ans plus tard.
On est quand même loin des 40 ans.
Ouais, on est loin des 40 ans, mais
c'est
ça...
C'est pour que tu aies des coûts de production acceptables, c'est ça ?
Bah, pour que tu aies des coûts de production acceptables, et puis surtout pour que tu aies des gens qui commencent à se lancer vraiment là-dedans. Okay. C'est-à-dire qu'avant 3DFX, avant Nvidia, faut voir que, enfin, je sais pas, Silicon Graphics, la N64, tout ça, c'était pas gagné du tout.
Non, c'était un petit million de francs, la bécane.
Puis t'avais effectivement des techniques ultra innovantes dont on savait pas si elles allaient pouvoir tenir sur des coûts de production à grande échelle. Produire une puce graphique à très grande échelle en 96, c'était très chaud. Hein. Après t'as 3DFX qui a débarqué, mais qui utilisait des astuces de chacal pour arriver à faire rentrer ça dans les coûts. C'était pas si évident que ça. Et on parle quand même de 3D qui à l'époque était extrêmement primitive. Je rappelle, hein, les personnages modélisés de Donkey Kong Country ne seront pas, enfin, on ne sera pas capable de faire du rendu 3D temps réel de ça avant la GameCube, dans le meilleur des cas.
Et c'est vrai que même aujourd'hui, il manque quelques pixels, mais c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Honnêtement, c'est pas sur le plan visuel que le jeu a le plus vieilli, je trouve.
Toi, tu as joué au 2, hein, c'est ça ?
Oui, j'ai joué au 2, mais...
Parce que j'ai conseillé le 2.
Ouais. Enfin, ouais, pour le coup, pour moi, le 2, le gros gap par rapport au premier, c'est tout ce qui est décor et animation des arrière-plans. Qui sont un peu plus fades sur le premier, mais je peux comprendre que les mecs aient pas eu le temps de chiader tout ça. Là où sur le 2, je sens vraiment qu'ils se sont lâchés complet sur tout ce qui est habillage. Quoi.
Mais dis-moi si je me trompe, mais sur le 1, il y a pratiquement pas d'animation sur les décors. Il y a d'ailleurs pas mal de décors qui se répètent.
T'as un multi-scrolling et t'as quelques animations sur le premier plan, mais globalement, c'est assez statique. Quoi. Ça va être de la roche, des petites collines. T'as quand même quelques plateformes qui bougent et des lianes. La plus grosse animation.
T'as la déformation dans l'océan.
Voilà, il y a ça, ouais, tout ce qui est effet de flotte, pluie, et puis l'océan, effectivement. Mais ça va pas plus loin.
Ce qui fait qu'effectivement, sur le 2, t'as plus de trucs parce que t'as des nappes de brouillard, t'as l'eau qui s'anime, t'as des nénuphars qui sont animés, t'as.
Des flammes,
t'as des roseaux qui bougent sur un marécage, deux ou troisième monde, il y a un marécage avec des roseaux qui bougent, t'as des flammes, effectivement, t'as pas mal de trucs, quoi. sachant que le 2, d'un point de vue technique, est vraiment dans la directe continuité du 1, il y a vraiment pas de grosse différence. Et le 3...
C'est un peu plus léché, quoi.
Tu sens que la technique est peut-être un tout petit peu mieux maîtrisée. Après, il y a pas mal d'assets qui ont été recyclés de l'un à l'autre, ce qui est bon, un peu logique dans ce genre de cas-là, mais il y a quand même énormément de décors qui ont été recréés. Je le trouve beaucoup plus varié au niveau des décors, le 2. J'avais l'impression, dans le 1, qu'il y avait quand même pas mal de décors qui se répétaient. Dire, t'as plusieurs niveaux de mines qui, effectivement, ont des layouts, hein, enfin, des tracés un peu différents pour les chars de la mine. Pour les chariots de la mine, t'as des tracés différents, mais globalement, c'est toujours la même mine, les mêmes rails, t'as pas une variété ouf. Je trouve que dans le 2, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de variété. Alors évidemment, c'est pareil, tu vas retrouver du color swap sur les décors, sur les ennemis, sur les trucs comme ça.
Ouais, des petites astuces d'optimisation. Ouais.
Puis ça reste une cartouche qui fait quoi 12 mégabits. Donc ça fait 3 mégaoctets. Hein, c'est...
Ouais, si peu que ça, bordel. Ok.
C'est peut-être 36 mégabits, hein, j'ai pas regardé exactement, mais je sais que c'est pas une énorme cartouche. Ou alors c'est la plus grosse cartouche jamais produite sur Super NES, c'est possible.
Ouais,
c'est, aussi,
ça fait 3 documents Word vides aujourd'hui, quoi.
Oui, voilà, c'est à peu près ça. Ça fait 2 MP3. et pourtant,
c'est
ça
beaucoup moins impressionnant, moi.
Ah oui, non, mais tu sais, c'est la Neo Geo, hein, 330 MB. Waouh, ça fait quoi, 10 MP3
la jaquette du premier Megaman où les mecs se vantaient que le jeu faisait 1 méga.
Oui, mais je rappelle que c'était un des arguments de vente des jeux Master System. Le truc faisait 2 méga power.
Nice.
C'était des mégabits, c'était même pas des mégabytes.
Ouais, ouais.
Ce qui est quand même, c'est quand même foufou. Enfin voilà, pour un jeu qui quand même, qui doit être assez consommateur en mémoire, les mecs ont réussi quand même à faire un truc assez carré, parce que c'est pareil, les animations sont pas du tout hachées. Elles sont plutôt bien décomposées sans être chiantes, parce que t'as des jeux qui décomposent énormément les animations, genre flashback et tout, c'est juste le truc est relou, quoi, entre le moment où t'appuies sur le bouton et le moment où le mec saute vraiment, il se passe 20 secondes.
Yeah. On se croit, ouais, c'est ça fait comme sur PlayStation. T'as l'impression de diriger un 40 tonnes.
En même temps, il a un peu raison. Mais voilà, Donkey Kong Country 3, pareil, ça va être exactement dans le même moule que le 1 et le 2. Et tu vas retrouver des ambiances qui sont peut-être beaucoup plus différentes. C'est-à-dire que le 1, le 2 reste quand même. Le 1 est beaucoup jungle tropicale, choses comme ça, bah, c'est Donkey Kong. C'est-à-dire que si tu retrouves des tonneaux, c'est parce que dans l'original il y avait des tonneaux,
des lianes, pareil,
des lianes. T'as plein de trucs qui sont en fait repris du Donkey Kong original. Et puis après, les mecs ont inventé tout un univers à base de tonneaux, de chariots, de choses comme ça, de tonneaux explosifs qui te propulsent avec tout un tas de niveaux qui font ça. Dans le 2, il y a une petite continuité de ça. T'as encore pas mal de niveaux de jungle, de marécages. De bateaux, parce que t'as énormément de galions et de choses comme ça, puisque tu vas t'attaquer directement aux Kremlins qui ont kidnappé Donkey Kong. Et dans le 3, en fait, les mecs changent assez radicalement, parce que t'as des montagnes, t'as des plaines, t'as des niveaux avec de la mer, t'as des niveaux qui se passent sur des plages. Je le trouve, le 3, énormément plus varié en termes de décor. Enfin, vraiment, ça change par rapport aux deux autres, même en termes de tonalité, de couleur et tout ça, c'est beaucoup plus clair, beaucoup moins sombre. Et, enfin voilà, le 3 là-dessus est pas mal. Le problème du 3, en fait, c'est qu'il est sorti en 1997, à l'époque où la Super NES, tout le monde s'en battait un peu les couilles, en fait. Hein, parce que la N64 était sortie, c'était un peu la fin partout. Donc c'est vraiment, je sais même pas en fait pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti. Il devait probablement être déjà bien entamé, mais je sais pas pourquoi Nintendo n'a pas débranché la prise avant.
Non, c'est.
Ça restera un des grands mystères de la série Donkey Kong Country. Alors ça reste un bon jeu. La problématique c'est que il y a Kiddy Kong dedans.
Oui, il est bizarre ce perso. Hein.
Et il est chelou. C'est un gros singe avec une grenouillère.
Ouais, il est pas beau hein.
Et il est avec Dixie, je crois. Il
y a de dans nouveau, le 3, oui.
Il y a de nouveau Dixie. Donc voilà, donc Donkey Kong Country 3, pas un mauvais jeu, mais pas. Enfin, c'est, pas plus meilleur, de, donc, ouais. C'est plus de Donkey Kong Country. À part pour les décors où je trouve qu'il apporte quelque chose. Pour le reste, on est vraiment dans de la continuité.
Et alors, est-ce que c'est une légende le plus de secrets dans le 3
Oui, puisqu'il y a le 103%.
Eh bien, a priori, j'ai lu qu'il y aurait un 105.
Ah, mais avec un bug.
J'en sais rien. Parce que la bonne blague, c'était que tu avais un secret. Pour finir le jeu à 100%, le premier, il fallait trouver tous les secrets. Et tu avais un secret dans un secret qui te permettait d'atteindre le 101%.
Qui était très drôle.
Yes, et coucou à NoLife en passant. Dans le 2, ils ont fait le même délire, sauf qu'il y avait deux secrets cachés dans deux secrets. Donc ça te faisait un 102%. Et dans le 3, ouais, comme toi, je pensais que c'était d'un 103. Et a priori, on m'a vendu qu'il y avait un 105% atteignable, quoi.
Je n'y crois pas. Je n'y crois pas.
Ça me paraît très bizarre.
Et tant qu'on est dans les secrets et autres, on va peut-être parler un peu de gameplay, parce qu'on a fait un gros point technique sur le jeu. C'était important de le replacer dans son contexte et l'importance.
C'est un peu ce qui avait marqué, ouais.
Ça a quand même démarré toute une lignée de jeux avec des images de synthèse digitalisées. Je pense notamment à Rise of the Robot.
Oh putain, j'ai oublié.
Ah, le jeu de combat là!
Il n'y a pas eu que du bon hein, dans l'image de synthèse digitalisée.
Ah ouais, bah ouais,
le jeu de combat où, quand tu joues à deux, le premier joueur ne peut pas choisir son perso.
Oui, ouais. Il est obligé de combattre avec Robot.
Putain,
voilà.
Mais voilà. Ça, c'est du vrai challenge, ok? Parce que quand tu peux choisir ton perso, c'est trop facile, tu prends les trucs que tu sais jouer. Hein. Alors que quand on te l'impose, là, il y a du challenge.
Non, mais c'est le bonhomme au cédar, quoi.
Oh putain, mais c'est atroce les animations. Mais c'est l'image de synthèse digitalisée. C'est la même technique qui est utilisée par Donkey Kong Country. Comme quoi, c'est pas parce que c'est joli que ça fait un bon jeu. Donkey Kong Country, c'est quand même plutôt un bon jeu dans l'absolu. Alors, je sais que Monsieur Galaxis va être pas tout à fait d'accord avec nous, mais je te laisserai la parole juste après, mon Kiki. On va commencer par. Alors, Donkey Kong Country, c'est un jeu de plateforme.
Merci.
Voilà, c'est assez classique. T'as un bouton pour sauter. T'as un bouton qui permet de faire une roulade. Et si tu le maintiens, tu cours plus vite, me semble-t-il.
Ouais, je crois que c'est en fin de roulade où tu vas un petit peu plus vite pendant un temps, ce qui te permet éventuellement de sauter plus loin si tu times correctement ton truc.
Sachant que t'as une espèce de roulade saut aussi où tu fais une roulade vers le vide, mais en fait tu peux quand même sauter au milieu de la roulade même quand t'es dans le vide.
Ouais.
Ce qui peut servir à atteindre certaines zones secrètes. Mm-hmm. Ce qui est quand même assez, assez barré.
Oui.
Ensuite, tu as le. Avec le même bouton qui sert à faire les roulades, tu as un bouton pour saisir des objets. Donc tu peux saisir des tonneaux ou des coffres. Pas d'ennemis, me semble-t-il, il y a vraiment juste des objets.
Non, mais les ennemis, c'est arrivé sur Wii U, ça.
Et je crois que tu peux aussi frapper sur le sol à certains endroits pour aller déterrer des objets.
Dans le 1, sûr que non. Dans le 2, je sais plus. Dans le 3, peut-être.
J'ai un doute parce que. Ou alors, il faut simplement rebondir à certains endroits pour faire sortir des objets. C'est possible.
Ça, non, ouais, rebondir dans le premier, ça y était déjà. D'ailleurs, ce serait une grosse critique que j'ai sur le premier, c'est que les secrets sont quand même très très bien planqués. Quoi. Il n'y a aucun indice qui te laisse penser que tiens, ce mur-là est cassable. Ou alors j'ai loupé un truc énorme.
Non, il y a pas mal de. Il y a effectivement pas énormément d'indices là-dessus. Donc voilà, comme tout jeu de plateforme, le principe c'est d'aller de gauche à droite, mais effectivement, il n'y a pas que ça en fait. T'as un début d'embryon de Collectatone à la Donkey Kong 64 derrière, parce que dans chaque niveau, en fait, tu as. Alors, je sais pas s'il y a un secret par niveau, peut-être un peu. Peut-être pas
un
tant
ou
que
deux.
Ça.
Un ou deux dans un le premier deux, niveau, il y en a deux, je crois. Enfin, il y en a un paquet.
Et voilà. T'as des zones secrètes à découvrir. Alors, parfois, il y a des indications. Parfois, tu es dans un trou, il y a une banane. Tu vois juste le tout petit bout d'une banane qui dépasse. Et donc, tu dis, ah ouais, mais en fait, il y a peut-être quelque chose. Et en fait, quand tu descends, bah oui, effectivement, il y a un tonneau explosif qui va te renvoyer vers le niveau bonus ou des trucs comme ça. Donc, tu as des fois des indications, pas toujours. Et ensuite, tu as les lettres Kong à récupérer, K-O-N-G, exactement bah, comme sur Donkey Kong Country Returns. Hein. Sauf que là, je crois que c'est pas juste un bonus, ça te donne une vie. Et c'est vachement important parce que les vies dans Donkey Kong Country, elles sont précieuses.
Elles partent vite.
Putain, qu'est-ce qu'on crève souvent. Et c'est pas genre le jeu te refile des ballons rouges de temps en temps, en mode vas-y, fais-toi plaisir, refais le niveau 3 fois, c'est bon, on te file un ballon rouge à chaque fois, tu peux réessayer. Non, 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 le jeu, on a rien à foutre. Le jeu est très pute de ce point de vue-là.
Ah, je me rappelle plus ce qui se passe en cas de game over.
Tu retournes à ta dernière sauvegarde.
D'accord.
Et les sauvegardes, il n'y en a pas à tous les niveaux.
Oui, c'est ça, c'est des petits points sur la map.
Et dans le 2, la première sauvegarde de chaque monde est gratuite et les suivantes sont payantes.
Ah, les
faut
putes.
Payer avec des pièces jetons qu'on trouve dans les niveaux. Et elles sont de plus en plus chères.
Ah, les bâtards. T'imagines si on avait eu... un système de microtransactions à l'époque.
Ouais, exactement. Hâte que EA fasse ce système et tu payes, genre, tu sais, ta première sauvegarde est gratos. Et puis après, c'est genre 2 euros, 3 euros, 5 euros.
C'est la petite deal de crack.
Dans TK1, elles sont gratos, hein, les sauvegardes.
Ouais, 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 elles sont.
Ouais, mais je crois que tu peux pas revenir en arrière pour refaire une sauvegarde une fois que t'as fini un niveau aussi.
Si.
Parce que dans le 2, elles sont payantes. Enfin, la première est gratuite. La première fois que tu débloques le Collège Kong, c'est là où tu vas sauvegarder. C'est là où il y a Prof Kong. Parce que oui, il y a beaucoup de Kong, en fait. Hein.
Ah, il y a tout un lore. Hein, c'est...
Bah, d'ailleurs, on l'a eu dans DKTV, le lore. Hein, ouais. Fallait qu'on la place.
Ouais.
Non, mais ça donne une idée quand même de l'impact énorme qu'a eu Donkey Kong. J'en fais une toute petite parenthèse là-dessus, mais il y a quand même eu... France 2 a quand même remplacé... je sais plus quelle émission...
Les Minicam, non ?
Non, c'était sur la 3, ça. France 1.
Ok, ouais. Pardon. Télévisateur, ils ont viré Crevette.
Pour... c'est ça, ils ont viré. Je pense qu'ils ont viré Télévisateur, mais je suis pas sûr. C'est peut-être une autre émission jeunesse qui avait lieu avant ou après, j'en sais rien. Mais ils l'ont remplacé par Donkey Kong en image de synthèse, qui anime le truc avec ses potes et avec la série télé Donkey Kong. Enfin, ça peut vous donner une idée du. Ah, c'était assez atroce. Hein. C'était assez atroce. Vous pouvez aller regarder les archives sur le site de l'INA si vous voulez. Vous allez voir que c'est quand même. Il y avait des blagues qui piquent. Mais voilà, c'est... Donkey Kong, un soupir sur le canapé. Donkey Kong a eu une influence tellement énorme, enfin c'était tellement un phénomène de mode, un phénomène de ouf, tous les gamins étaient accros à Donkey Kong, c'était la folie, que du coup, bah ouais, les émissions télé, les séries télé, le machin, tous les produits dérivés que tu peux imaginer en Donkey Kong, les peluches, tout ce que tu veux, ça a fini par arriver. Mm. C'est quand même assez ouf. Voilà. Parenthèse terminée. Muse revient, attention, une déclaration fracassante.
Donc, Wikipédia dit que ça a commencé en 1996 avec une animatrice et que après que l'animatrice soit partie, on s'est resté à l'antenne jusqu'en 2000.
2000 ?
Oui.
Voilà.
Voilà. Ouais, voilà.
Avec les mêmes modèles moches.
Avec les mêmes modèles moches. Donc, voilà. Et ça a été rebaptisé DKTV.com. Tu vois, histoire de faire Jones.
C'était avant la bulle des.
Et c'était sur France 2 et c'était avant KD2A, si ça dit quelque chose à quelqu'un.
Oh la vache.
Oui, voilà.
Merci Muse. j'ai ma speakerine personnelle pour ce genre de choses. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup. Non mais comme ça, on a l'information en direct. C'est. Priorité, journalisme total. Mais un de ces jours, il faudra qu'on fasse une émission spéciale sur les séries, films et autres adaptés de jeux vidéo. Parce que
oh non, je vais devoir les regarder. Je vais replonger dans le monde des enfers des années 2000.
Excuse me,
Princess.
Et puis dans le fabuleux... Merde, c'était quoi le premier film d'Uwe Boll? Ah putain.
Uwe Boll, c'est...
Avec des zombies. Non, c'est pas Alone in the Dark. House of the Dead.
Ouais.
Ah, alors une précision supplémentaire me glisse dans l'oreille. Il y a eu des déclinaisons.
Comme en latin.
En russe aussi. Hein.
Putain.
Excusez, j'en reviens.
Attendez, voilà, elle revient. Nous t'écoutons.
On
t'écoutons.
Total.
Il y a eu les vacances de Didi. Oui. L'été 97, aux alentours de 7h du matin, tous les samedis et dimanches, tu avais droit aux vacances de Didi Kong. Et après, on a eu... La même année, tous les samedis à 9h30, on avait Donkey Kong Plage.
Oh putain.
Voilà. Et ensuite, en 2000, alors l'été 2000, franchement, vous avez morflé vos races parce que vous aviez Didi Kong, Didi.cool le samedi matin et le dimanche
cool,
à 7h.
Point cool, évidemment.
Et tous les samedis...
Ah, il y avait la messe. Ah non.
Tout 2000 et 2001.
Oh
tous
non,
les samedis, à 7h45, il y avait Didi.cool.
Voilà, vache.
Putain.
Et ça se trouve, c'est de là dont vient le présentateur de la météo de Gulli. Hein.
C'est possible.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on a une chance d'avoir un amiibo de la présentatrice de l'époque?
Non, non. Merde. Non, il faut arrêter maintenant avec ça. Surtout que c'est quand même les mêmes images de synthèse dégueulasses avec les mêmes animations dégueulasses qui étaient utilisées pendant, ont été utilisées pendant 5 ou 6 ans.
Non, mais m'en fous, des singes, je veux l'animatrice.
D'accord, mais l'animatrice ça suffit, on a dit.
Ok.
Tu auras l'amibo de l'animatrice du truc jeu vidéo de Canal.
J'ai pas trouvé le nom d'ailleurs.
De Cléo là, qui a des chronibars.
Non, arrêtez avec ça. Non, alors ça suffit. Alors, je reprends les choses en main.
C'est ce qu'ils ont retenu de l'émission, tu vois.
On arrête la parenthèse des KTV. Ça suffit, ma chérie. Voilà, ça suffit, tous. On arrête la parenthèse des KTV. On repart sur le gameplay, s'il vous plaît. Parce qu'on va finir cette émission sur... Parce que là, je suis désolé, c'est le déshonneur.
Oh. Mais ça passait à la télé.
C'est pas grave, on n'a pas d'auditeur.
Mais qu'était...
Oui, sur le service public, en plus, monsieur. Voilà.
Bon, non, devant, donc, ça payait ça.
Mais le gameplay. Macron, quoi.
le gameplay.
Donc, du platformer classique, des niveaux un peu démoniaques, il faut quand même... Avec beaucoup de rebonds, c'est un des trucs qui m'a marqué. J'ai refait les trois premiers mondes de Donkey Kong Country 2. Le nombre de trucs où on te dit, bah, tu sautes sur un ennemi, puis tu sautes sur un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un même, puis après tu te raccroches.
Enfin,
il a chopé
une lettre. Ouais.
Ouais, voilà, enfin, c'est la folie, quoi.
Yes.
J'ai pas souvenir qu'il y en a trop dans le premier. C'est plus pour choper des bonus.
Voilà, c'est pour les bonus dans le premier, c'est sûr.
Bah ouais, mais après, t'as les très emblématiques niveaux avec les tonneaux. Les fameux tonneaux, c'est-à-dire Donkey Kong est dans un tonneau et il faut appuyer simplement sur la touche saut ou même sur n'importe quelle touche en fait pour l'éjecter vers un autre tonneau. Et t'as tout un tas de niveaux qui étaient faits comme ça avec plusieurs circuits de tonneaux que fallait timer correctement.
Bouge, ouais, qu'il fallait arriver.
Des tonneaux automatiques.
Ouais, les tonneaux pièges.
Exactement. Les tonneaux qui marchaient pas. Ah si, non, ça, ils marchent tous. non mais voilà, et après t'avais les niveaux en chariot qui étaient aussi une. Petite nouveauté.
Ah, c'était la classe, ça. Indiana Jones, le temple maudit, le jeu, quoi.
Mais des niveaux hardcore en plus.
Ah bah c'est du pixel perfect, hein, certains sauts en bout de rail.
Ah, il faut pas se louper, quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai souvenir d'avoir réussi à finir Donkey Kong Country il y a quelques années, à refinir Donkey Kong Country sur Super NES il y a quelques années.
Respect.
Là, j'ai démarré Donkey Kong Country 2 hier, parce que j'avais que ça à foutre. En 2 heures, j'ai bouclé 2 mondes et demi. Mais alors, putain, le troisième monde...
Ah, la vache. Ça devient vite... Là, je me suis marré sur le premier, donc le run que j'ai refait. Pour le coup, j'ai utilisé ma Super NES Mini. Merci Nintendo, hein, c'était vraiment cool. Je me suis surpris à me boiter exactement dans les mêmes endroits où je me boitais quand j'étais gamin, quoi. Et à me rappeler des pics de colère que j'avais pu prendre à l'époque.
Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même
très difficile. Mais ce qu'on disait en off, voilà, c'est le truc est suffisamment carré pour qu'on sache que c'est pas le jeu qui a déconné, c'est vraiment nous joueurs qui avons merdé, quoi.
Oui, mais c'est, je veux dire, c'est ce qui faisait genre aussi le charme de Donkey Kong, le fait que ça soit pas compliqué, mais enfin si compliqué, mais
accessible,
comment dire, qu'il y ait vraiment
mais...
du défi, quoi.
Il y a un challenge.
C'est ce qui en partie faisait la popularité du jeu. C'était vraiment le fait que ça soit un platformer avec un feeling qui était un peu différent.
C'est quand même un platformer plutôt. Enfin, par rapport à tout ce qui est sorti à l'époque, c'est un platformer qui est difficile, mais qui est plutôt de qualité. Le problème, c'est qu'à l'époque, des platformers avec des mascottes et trucs comme ça, enfin, t'avais tout et n'importe quoi. Quasiment tous les jeux étaient des platformers, t'avais pas vraiment de... Enfin, c'est compliqué de faire autre chose que des jeux de plateforme sur NES ou sur Super NES, quoi.
Après, tu vois...
Donc, t'avais de l'action plateforme et t'avais vraiment de la plateforme pure. Et c'est vrai que dans le genre plateforme pure, t'avais pas tant de jeux que ça. Et t'avais beaucoup de trucs très génériques et qui étaient très mal calibrés. Là où tu sens que Donkey Kong Country a quand même une vraie qualité, c'est que, ok, il est difficile, ça donne un petit peu d'attrait au truc, parce que ça veut dire que le jeu va être un peu plus long. Plus long, c'est très relatif, hein, ça se finit en 5-6 heures, hein, quand t'es à peu près entraîné. Mais surtout, ça veut dire que t'as quand même un minimum de rejouabilité, parce que t'as plein de secrets, et ça, à l'époque, ça compte, parce que les jeux coûtent cher, et t'en achètes, du coup, pas beaucoup. C'est quand même pas négligeable comme argument. Et en plus, t'as quand même un côté finalement très spectaculaire, c'est-à-dire que le jeu est à la fois très beau et effectivement c'est du beau qui va vite, et quand t'arrives à finir certains niveaux où effectivement t'as beaucoup de rebonds, d'événements qui se passent à l'écran, d'ennemis, de machins, de trucs, c'est quand même assez jouissif d'arriver à passer d'un seul coup un passage très compliqué où t'as une liane qui mène vers un tonneau, qui te fait rebondir vers un ennemi, qui fait que t'atterris sur un roseau, qui fait que tu vas aller te propulser ailleurs. T'as un côté très spectaculaire dans ce gameplay là Et je pense que c'est ça aussi qui a fait un petit peu l'attrait du jeu.
Yes. D'ailleurs, pour le coup, c'est un truc que je retrouve là dans les dernières moutures. Je pense qu'ils ont saisi un peu cet aspect challenge spectaculaire avec le mode chrono. Tu sens... Tiens, d'ailleurs, je regarderai, mais je pense que les speedruns sur Donkey Kong Country, ça doit être vraiment sympa à regarder.
T'as des raccourcis de ouf.
Ouais.
T'as des raccourcis de ouf. Sur Donkey Kong Country Returns en mode chrono, t'as des mecs qui font des trucs complètement craqués.
Je jette un œil.
Sur le premier Donkey Kong Country, il est finissable en moins d'une heure. Hein.
Ah ouais ?
Pas à 100%.
Ok.
À 101%, il est finissable en, je crois que c'est 1h45 ou 1h50, un truc comme ça.
Punaise.
C'est déjà pas mal. Mais effectivement, les speedruns de Donkey Kong Country, 1, 2 ou 3 d'ailleurs, ça reste des moments assez impressionnants parce qu'il y a vraiment une exécution quasi parfaite. Et je crois que Galaxy nous a quittés.
Ah.
Je sais pas ce qui lui est arrivé.
Bon, ouais, du coup, juste pour aller dans son sens, je sais pas si le jeu est suffisamment bien branlé. À l'époque, hein, je parle, si le jeu avait... Enfin, en gros, si sans cet aspect graphique, il aurait eu le même succès.
Ça a attiré le chaland, ça c'est sûr.
Après, oui, t'avais de la bonne cam derrière, ça c'est clair.
Maintenant, est-ce que le jeu aura eu un tel impact ? C'est pas sûr.
Ouais. Ouais, comme tu dis, la mascotte était un peu...
Ça reste...
Oublié, quoi.
Ça reste quand même un platformer...
Ah, c'est carré, ça y a pas de...
Carré, mais des années 90, c'est-à-dire que... T'as quand même un marché dans lequel... Tu as des jeux de combat... One on One, parce que Street Fighter 2 est passé par là, donc t'as toujours ce trend de Street Fighter 2 qui continue. Mm-hmm. Mais des platformers, il en sort 4 par mois, quoi.
Ouais.
Regardez le nombre de jeux de plateforme qu'il y a sur, sur NES, sur Super NES. C'est pas 80% de la ludothèque, mais pratiquement. Mm-hmm. Alors après, t'as toutes les variantes possibles et imaginables. T'en as des difficiles, t'en as des faciles. T'as tout un tas de gimmicks. T'en as où il y a des objets, t'en as où il n'y a pas d'objets. Je trouve que Donkey Kong Country tire un peu son épingle du jeu, pas seulement graphiquement. Et effectivement, ce qui fait que le jeu s'est vendu au départ, la grosse promo pour moi, elle a été vraiment faite là-dessus, sur le fait que c'était
beau.
Sur
la technique, ouais.
Effectivement, sur la technique. Mais derrière, t'as quand même un jeu assez carré. Voilà, c'est pas... Alors après, s'il avait eu des graphismes, on va dire, un peu plus normaux, est-ce qu'il aurait eu un gros succès comme ça ? Peut-être pas, peut-être qu'il aurait eu un moins gros succès, mais ça
aurait... Il fallait batailler plus, quoi. Là, l'argument était tout trouvé, on est d'accord.
C'est ça, les mecs n'avaient pas besoin de faire beaucoup d'efforts au marketing pour arriver à le vendre, mm-hmm. je pense. Il suffisait vraiment de le montrer, tout le monde comprenait. Et une fois que t'es manette en main, tu te rends compte que c'est pas juste une coquille vide,
non,
comme
ouais, c'est ce que
peut l'être Rise of the Robot, c'est-à-dire qu'il y a un vrai jeu derrière.
Si le truc avait été daubé, il n'y aurait pas eu deux suites.
C'est ça, ou alors il y aurait peut-être eu une suite, mais c'est tout, et encore, c'est même pas sûr. Mm-hmm. Et globalement, le truc marche quand même assez bien, même si c'est peut-être un peu moins bien designé qu'un Donkey Kong Country Returns ou un Tropical Freeze. Ouais, dans lequel...
Les années ont passé, quoi.
C'est ça, puis t'as pas les mêmes obligations. Je veux dire, t'étais vraiment obligé de recycler énormément d'assets quand t'étais sur Super NES. C'est un peu moins vrai aujourd'hui où tu peux faire des niveaux très originaux sans trop de problèmes. Pareil, le jeu est quand même pas très long. Je crois que dans Donkey Kong Country 1, il y a une trentaine de niveaux, un truc comme ça.
Je sais plus. Là. Comme d'hab, je commence à galérer sec sur les niveaux de glace.
Ah oui, les niveaux de glace.
C'est dans un platformer, pour moi, il y a énormément de gens, leur cauchemar, c'est les niveaux aquatiques. Moi, c'est tout ce qui est niveau glacé, là, le truc qui te bousille l'inertie du personnage où faut réapprendre le jeu. À chaque fois, j'y passe des vies et des vies là-dessus.
D'ailleurs, je tiens à préciser, il y a beaucoup de types de gameplay en fait dans Donkey Kong Country, et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça le distingue un petit peu des platformers un petit peu plus génériques dans lesquels on a tendance à délayer la même formule encore et encore sur une vingtaine, une trentaine de niveaux. Là, il y a quand même pas mal de contenu, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de niveaux. J'ai vu des platformers dans lesquels il y avait nettement moins de niveaux à la même époque. Pour rappel, un Mega Man, c'est 9 niveaux.
Ouais.
Le château de Wily qui fait 3 niveaux, quoi.
Yes.
On a une douzaine de niveaux. Alors, ok, très difficile, ok, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même pas énorme. Là, on parle quand même d'une trentaine de niveaux. C'est-à-dire, il y a des répétitions. Hein, faut être clair, il y a des niveaux. Les niveaux de chariot se ressemblent tous beaucoup.
Ouais.
Mais c'est quand même toujours un tracé différent à chaque fois.
T'as des petites fulgurances. Là, je suis retombé sur un niveau où t'es accroché à une liane. La liane, c'est elle qui se déplace, donc toi, tu es fixe dessus. Et tout ce que tu dois faire, c'est monter et descendre sur la liane pour éviter des conneries qui te foncent dessus. T'y retrouves un petit feeling shoot 'em up.
Oui, pratiquement. Ouais. Mais t'as pas que des niveaux de plateforme pure derrière, parce que t'as les niveaux de chariot, donc les niveaux de tonneau, mais il y a aussi les niveaux aquatiques.
Ouais.
Qui sont parmi les niveaux aquatiques les moins pérave de l'histoire du jeu vidéo, parce que c'est très maniable. T'as une musique qui détend.
Ouais. D'ailleurs, tu la mets souvent en musique de fond.
Elle fait partie des musiques de fond du Dojo Bar. Mais voilà, t'as une musique qui détend, et c'est pas des niveaux stressants. D'habitude, les niveaux aquatiques sont ultra stressants parce qu'il y a une limite d'oxygène du personnage. Là, c'est bon, donc Kong, il se respire sous l'eau, y a pas de problème.
Yes. Des mini labyrinthes. Oh, le revoilà.
Oui, je vais pas m'énerver. Hein. Merci dans le chauffe-eau climatique.
T'as des niveaux aquatiques qui sont assez agréables. Maintenant, ça reste quand même très difficile. Je rappelle que tu n'as que un point de vie. En fait, hein, tous ceux qui se sont plaints que Donkey Kong Country Returns c'était un jeu très dur, vous avez quand même deux points de vie.
Ouais.
Sur Donkey Kong Country, le premier, il y a un point de vie. C'est-à-dire qu'en gros, tu te fais tuer, enfin, Donkey Kong se fait tuer, Diddy Kong prend sa place, à condition qu'il
soit
là.
Ah mais oui, mais c'est terrible ça dans le 2. J'ai fait... Attends, quoi ?
C'est pareil, pardon.
J'ai fait mes...
Et donc du coup, Drosgar...
Bonjour.
Excuse-moi, Galaxy.
Merci de m'accepter, tout va bien ?
C'est pas fait exprès. Oui, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, avec ton regard de joueur un petit peu moderne ? Qui n'a pas connu Donkey Kong Country dans sa jeunesse, donc qui n'a pas ce regard nostalgique de Mecton, et qu'il l'a pas dans les doigts non plus, parce que moi j'ai remarqué, on y rejoint,
car il reprend... est manchot.
Il n'a pas de doigts. Mais on le reprend très vite en main, en fait. C'est-à-dire que les réflexes d'il y a 20 ans, on les a à peu près toujours. Hein.
Je confirme. Courir,
machin, maintenir le bouton Y, bah. Sauter, tout ça, ça passe assez bien, quoi.
C'est vrai que mes réflexes d'il y a 20 ans... bon, mais voilà, bon, quoi.
Tu n'as pas le jeu ça... dans les doigts.
Non, mais... C'est... Alors, pour le coup, j'ai pas un avis ultra intéressant, je pense, parce que bah, j'ai fait que le premier niveau du 2, et j'ai arrêté au milieu du deuxième niveau du 2. Du... Attends. Oui, voilà.
Il
au
nous
milieu
a fait une
du deuxième niveau du 2, tout va bien. Et j'ai arrêté parce que c'était... C'est très rigide, je trouve. Très honnêtement, le truc qui m'a fait vraiment arrêter, c'est les lianes. C'est-à-dire que t'as un ennemi sur une liane et tu peux pas le taper et t'es obligé de... C'est le seul... Après, peut-être tu es débile, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé de les tuer, c'est-à-dire c'est de sauter de la liane par-dessus la liane et de retomber sur lui. C'est le seul moyen...
Je crois que c'est la méthode officielle.
Mais voilà, je veux dire, c'est quand même complètement con alors que
tu peux aussi lui jeter un tonneau.
Oui, mais tu peux monter avec un tonneau.
Mais c'est pacifiste comme jeu.
Non mais je savais pas. Non mais pareil, le tout premier niveau. Bon, je vais m'énerver. Tu spawns comme disent les enfants cool. Tu apparais. Tu nais. Y a des bananes au-dessus. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de sauter. Je saute pas assez haut. Je me dis c'est pas grave. Y a les barres du bateau. C'est des plateformes. Mais que nenni.
Mais c'est oui, pas mais du tout des fait, plateformes. Tu t'es fait barber.
Et ça, c'est... et ça, et voilà. Et puis après, quand je vois qu'on a la petite gazelle là, qu'on peut porter, je me dis ah bah gros cerveau, Ilan gros cerveau. Ce que je peux faire, c'est que je la mets sur mes épaules et je saute et j'ai un peu plus de hauteur. Sa tête passe à travers la banane. Alors va falloir m'expliquer quand même la logique de jeu. Voilà. Et donc du coup, ça m'a un peu upset comme disent les Anglais. Mais ça m'a un peu énervé. Et je t'avoue que j'avais pas spécialement envie de continuer, genre c'était pas super plaisant. C'est sympa dans le sens où, comme j'ai fait dans Kekong Country Returns, bon, on a quand même les mêmes sensations, tu vois. Je me dis, bah ça fait du bien, alors que j'avais fait mon dernier jeu de plateforme en date, je crois que c'est New Super Mario Bros. Que j'avais fait en émulateur. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même physique. Et je trouve que même celle de Donkey Kong est quasiment plus plaisante.
Elle est particulière, c'est sûr.
Il est, on le sent vraiment plus léger, Mario. Alors que Donkey Kong, à côté, il a vraiment, et même le petit, hein, du coup, Diddy Kong, sent vraiment qu'il a, bah, que c'est un gorille, quoi, tout simplement. et c'est agréable, mais sinon, le reste, Starfall de ouf, quoi. Alors clairement.
Tu notes un petit défaut qui est intéressant, et on va probablement terminer là-dessus, parce que c'est un vrai défaut du jeu, je trouve. Et c'est un défaut qu'ont tous les jeux qui utilisent cette technique-là de personnages digitalisés ou de décors en images de synthèse qui ont été ensuite passés à la moulinette. C'est pas toujours évident d'arriver à distinguer ce qui est une plateforme de ce qui ne l'est pas.
Ah, j'ai cru que t'allais parler de la hitbox.
Non mais, ah bah oui, mais
et la hitbox fait partie du problème aussi.
Ça fait partie du délire. J'ai tout con. C'est un autre problème, j'en parlerai juste après. Mais oui, effectivement, sur le bateau, t'as, du coup, comme c'est un bateau, t'as 40 000 barres horizontales, verticales, tu ne sais pas sur quoi tu peux t'accrocher. À un moment donné, on présente les cordages. Déjà, les cordages, ils s'accrochent une fois sur 6. On te présente les cordages. Je me dis, ah bah super, je monte. Le scrolling part pas vers la droite, alors qu'il faut aller vers la droite. Je me dis, bon, y a pas de problème, c'est un niveau vert, machin. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, faut aller vers la gauche. Je vois un drapeau avec un cordage. Tout simplement, je dis, bah, je vais me jeter dessus. Je me jette dessus, je tombe sur un crocodile. Sauf que je tombe pas sur la tête du crocodile, je tombe à côté, il me tue. Je veux dire, à un moment donné, rendez l'argent. voilà.
Mais moi-même, je dois reconnaître que sur certains niveaux de Donkey Kong Country 2, notamment, mais sur le 1, ça m'est arrivé aussi. De me dire, putain, le nénuphar qui est au milieu de l'eau, là, est-ce que c'est du décor ou est-ce que c'est une plateforme? Et c'est pas si facile que ça à distinguer. Ça arrive pas souvent.
Mais quand ça arrive, ça fait bien chier.
Ah oui, voilà. Non, mais c'est bien relou. Mais
effectivement, il y a certaines hitbox qui sont moins, qui sont pas si évidentes que ça.
Et alors, pour ma culture, on est d'accord, Didi et Donkey, ils ont la même hitbox, il n'y en a pas un qui est plus petit que l'autre.
Alors, ils ont normalement la même hitbox, la différence essentielle dans Donkey Kong Country 1, la différence entre Diddy Kong et Donkey Kong, c'est simplement le fait que Donkey Kong est un tout petit peu plus lourd. Et en fait, il a une physique un tout petit peu différente de Diddy Kong, qui est un peu plus léger. Et,
ok.
Alors, je suis pas sûr qu'il saute plus haut, mais tu sens qu'il est moins pataud.
Je sais pas, parce que tu vois, 20 ans après, je me surprends encore à trouver plus plaisant Diddy à jouer que Donkey, et j'arrivais pas à trouver pourquoi.
Bah, Donkey Kong est moins compliqué, enfin, Diddy Kong est moins compliqué à jouer parce qu'il est effectivement plus léger, plus.
Plus véloce. Je dirais
qu'il est plus véloce, plus rapide à réagir. Mm-hmm. Donkey Kong est un peu plus lourdeau. Par contre, dans Donkey Kong Country 2, il n'y a aucune différence entre Diddy et Dixie.
Dans le même gabarit, ouais.
À part le fait que Dixie peut planer un peu plus longtemps avec ses cheveux hélicoptères qu'elle fait tourner.
Ah, c'était ça le bordel ?
Ouais.
D'accord, c'est un j'ai classique. Vu l'animation, j'ai tapé, je crois que c'est en tapant, elle fait tourner ses cheveux aussi.
Oui, l'animation de la roulade, en fait, elle roule pas, elle tourne sur
ouais, voilà. Alors déjà, la roulade, faut quand même le savoir que c'est le coup, hein. C'est bien parce que je me suis dit, bon, je vais foncer sur un ennemi et je vais tester que... Mais c'est
écrit,
quand même
c'est
pas
écrit dans
super
le mode d'emploi. Hein,
ouais, d'accord.
On lisait le mode d'emploi.
Ils avaient qu'à le fournir dans les ROM sur internet, le mode d'emploi.
Tu veux pas un tuto non plus.
Ils pensent pas à tout. Moi, je suis désolé, à un moment donné, attends, tu fais vivre ton jeu ou tu le fais pas vivre.
T'as le choix entre, pour sauter, appuie sur le bouton de saut ou démarre-toi. Voilà.
Ah, non, mais c'est... Sinon, c'est très puissant, mais un autre problème, c'est aussi le fait, à mon avis, que ça soit digitalisé. Un autre problème, c'est... Oui. je ne dirais rien, comme disait Black M. Un autre problème, c'est aussi, je trouve, les sprites. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le sprite de quand tu rebondis. J'ai trouvé un secret, et dans la coque du bateau, j'avance vers la droite, et il y a mon personnage qui saute. Et il y a le même petit sprite que quand tu te prends un coup. Et je me suis dit, c'est quand même sacrément con. Et donc du coup, j'ai cru que la pièce que tu devais aller chercher, parce que c'était un bonus où tu devais choper une pièce, c'était pour ressusciter. Et je me suis retrouvé bien con quand j'ai foncé sur un ennemi en me disant, c'est pas grave, au pire je le rate, il n'y a aucun problème, tu vois. Il y a eu la même petite animation, donc le même sprite, et que finalement, c'est la meuf qui prenne sa place. Et je me dis... Je viens de génocider un petit singe.
Oui, mais t'es con aussi.
Ouais. Non, mais c'est quand même pas évident. Tu fous le main sprite sur un bonus et quand tu te prends un coup.
Ah, c'est vrai parce que je vois pas vraiment de quoi tu parles. J'imagine bien la situation, hein, mais je l'ai pas.
Dans le ça doit être le premier ou le deuxième niveau parce que du coup j'ai fait que cela.
Journalisme total. Hein.
Il y a quelque chose à vous dire. Il y a un trou dans la coque et tu tombes à cet endroit-là. Et même il y a un crocodile dans un tonneau qui essaye de le jeter par-dessus bord.
Putain, mais il se passe des trucs de ouf dans son jeu.
Attends, on a joué au même jeu.
Oui. Attends. Non, mais le croco.
Moi, je pense que Galaxy il joue un meilleur jeu que nous.
Quand il te fonce dessus. Mais attends, mais je vais vous lire le nom de la.
Galaxy, étais-tu sous acide?
Mais quel bateau?
J'étais pas sûr. Mais le bateau au début de... vous allez me rendre ouf. J'ai chopé une ROM custom ou c'est comment? Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest. On est d'accord.
Non, t'as chopé non, c'est la version hardcore ça.
Ah ouais. Ah ouais, c'est le Dark Souls.
Diddy Kong Master Quest.
C'est la Dark Soulisation.
Non mais attends, mais au début, t'as un bonus. C'est un trou dans la coque. Et faut aller à droite une fois que t'es dans la coque.
Oui.
Et au-dessus de ce trou... T'as un crocodile ou un... Ça doit pas être un crocodile, c'est un truc vert, mais comme il y a des crocodiles
c'est
partout...
C'est un genre de truc vert, oui. C'est le genre vert.
Dans un tonneau.
Oui.
Et il essaye de te jeter par-dessus bord, parce que quand il te fonce dessus,
il te
ça fait que
dessus.
Te pousser.
Oui,
mais oui,
et ça fait une petite animation genre bump, et effectivement...
Il essaye totalement de te jeter par-dessus bord.
Non, il essaie juste de te pousser, c'est pas
non,
grave.
Il essaie... Je suis désolé, il essaye de te jeter par-dessus bord. Faut arrêter votre mauvaise foi,
C'est tout.
Non, alors, mais le scénario
Galaxy,
est ouf.
Je ne vous permets pas, monsieur Galaxy, il y a un peu de respect.
Non, mais attends,
il y a un peu de respect
dans tous
à
les cas.
Faut respecter un petit peu les gens qui font cette émission, parce que je suis désolé, ce que vous faites là, c'est du manque de respect.
Quelle indignité, monsieur Galaxy. Mais non, mais je suis désolé, voilà. Et donc, du coup, Enfin, je suis pas désolé, à un moment donné, j'assume ce que je dis. Hein. Et t'as un trou dans la coque à cet endroit-là. Et quand tu vas à droite, ça te bump hors de l'écran et t'arrives à un truc où t'as 20 secondes pour faire 3 sauts et récupérer une pièce. C'est plutôt bien payé, moi je dis pas non. Moi je t'avoue, je suis pas content. Et là, tu retournes dans le niveau. Sauf que comme quand ça te bump hors de la carte, et ben il y a la même sprite que quand tu meurs.
D'accord.
Je me suis dit, c'est complètement con. Ils ont foutu une petite bestiole qui te tue à cet endroit-là. Et pour ressusciter, tu dois choper une pièce. Et je dis, bon, écoute, le jeu, il a pas l'air trop dur. Et puis après, je me rends compte que quand la liane...
Attends, c'est vraiment une réflexion de post-2000, quoi.
Mais attends, le mec, avec la liane, tu peux rien faire contre lui. Et il te tape et tu meurs. Et je me dis, mais attends, mais elle est où ma pièce, tu vois
genre, il est où mon gun?
Mais c'est pas possible. Non, mais attends, mais ma grenade, donnez-moi ma grenade à couvert. Je veux dire, je suis désolé, ça peut être un Battle Royale. Je veux bien. Non mais c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait, quand même pas mal de petits défauts comme ça. C'est pas vraiment des défauts, c'est plus des maladresses parce que du coup, je pense pas que c'était tellement le cas à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a de l'UX design, il y a vraiment ce bordel de qu'est-ce que le cerveau comprend comme étant un obstacle, qu'est-ce que le cerveau comprend comme étant bien et t'adaptes ton visuel en... T'adaptes ton visuel en tant que.
Tout à fait, tu vas le réfléchir comme ça.
Mais.
Tu le réfléchis.
C'est la vidéo de Mark Brown, ça, sur l'escalade.
Tu réfléchis ton UX design, effectivement, en fonction de. T'essayes de donner systématiquement du feedback aux joueurs, t'essayes de que tout ait un impact et tout ça.
Et totalement.
Le jeu commence à le faire. C'est-à-dire que c'est typiquement au milieu des années 90, c'est là où les jeux vidéo commencent à faire ça.
Mais là, honnêtement, c'est plein de petites maladresses qui, à mon avis, en fait, en regardant genre d'un peu plus loin, sont liées à ça. Et c'est vrai que, du coup, comme j'ai grandi avec des jeux qui ont été pensés par des... Oh là, pardon. Par des game designers, par des level designers, mais aussi par des mecs qui étaient là pour dire « Non, le cerveau là du joueur, il va pas comprendre ça comme une plateforme. Donc, faut le mettre dans une couleur différente, machin. » Là, c'est vrai que ça faisait pas mal de petits défauts, de sprites, de hitbox, de trucs pas de clair, qui fait qu'à mon avis, j'ai pas accroché.
Mais c'est une remarque que je trouve super pertinente, en fait, parce que le jeu est par rapport aux standards de l'époque, le jeu est super quali, c'est-à-dire qu'effectivement, des jeux de plateforme, il y en a des bien plus merdiques sur Super Nintendo, avec des trucs encore moins clairs, avec des plateformes encore moins visibles. Enfin, essayez de faire Tintin au Tibet, hein, vous allez voir.
C'est... Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin... Tintin au Tibet, typiquement les jeux Disney en général, je crois qu'il y avait plein de problèmes, ne serait-ce que Fantasia.
Plein de trucs à la con, enfin bon, essayer de refaire ces jeux-là. Donc Donkey Kong Country est quand même ultra quali de ce point de vue-là, c'est-à-dire que le truc est quand même carré. Mais il n'empêche qu'effectivement, il y a des maladresses, des petits détails qui peuvent choquer des gens qui n'en avaient pas l'habitude à l'époque. Après, le truc c'est qu'on s'y fait quand même relativement vite, c'est-à-dire que t'as abandonné assez vite parce que t'es une lopette.
Non mais parce que je suis désolé, moi Nintendo Jojo, faut savoir que c'est une rédaction qui est tyrannique. C'est-à-dire que moi j'ai été obligé de faire le jeu à 18h pour 21h.
Le temps de trouver la ROM et l'émulateur.
Non, parce que ça va. Hein,
avec Mortal qui te mettait la pression derrière.
Mais oui, j'étais sur Mumble, le mec était là, allez. C'est quand même très pesant, il y a un harcèlement moral quand même qu'on voit pas quand on est en direct parce qu'on essaye de faire bonne figure, mais c'est quand même assimilable à du David de Grutola que je ne citerai pas, que évidemment je garderai l'anonymat de David Cage pour pas le citer.
Des rêves chaotiques.
Et vraiment c'est honteux, mais non, c'est très sérieusement, je pense que si j'avais pris plus le temps, j'aurais certainement continué. Et puis en soi, c'est vrai que les plateformes, il y en a certaines au début, genre ça choque, parce que clairement, quand tu démarres, qu'il y a des bananes trop pour toi et qu'il y a des barres horizontales, bon, ne pas avoir mis des plateformes, c'est quand même un peu.
Mais en fait, tu peux quand même les choper, les bananes, c'est juste qu'effectivement, il y a.
Mais
y a,
mais oui, y a... mais alors comment? Alors, mais ça, pour le coup, alors, au a, tout premier niveau, comment
quoi? Le troisième niveau du troisième monde, c'est un marécage. Et juste après le checkpoint, il y a un tonneau explosif avec une flèche vers le haut. Donc quand tu vas dedans, ça te propulse vers le haut. Et il y a des bananes qui forment une flèche qui va vers le haut, juste à côté du tonneau. J'ai pas encore compris comment on faisait. Mais ça fait partie des secrets du jeu, ça fait partie des trucs où il y a peut-être une technique pour aller courir d'une certaine manière, sauter, t'appuyer au bon moment sur le bouton de saut quand t'es dans le tonneau pour, boum, rebondir plus haut.
C'est mais vraiment... oui, mais c'est pour ça que c'est bizarre, parce que à côté de ça, t'as, tu vois, des trucs comme ça qui sont vraiment genre, tu le fais comme on l'a voulu, et à côté de ça, ça m'a vraiment surpris pour un jeu de l'époque, parce que c'est plutôt aujourd'hui, on dit, les trucs, tu peux les choper de, tu sais, les bidules à collecter, tu peux les choper de 2-3 manières différentes, et c'est vrai que ça m'a étonné pour un jeu, je sais pas si ça se faisait à l'époque, parce que encore une fois, j'ai pas vraiment fait beaucoup de jeux de cette époque-là, mais par exemple, il y avait une pièce, et normalement, fallait faire tout le tour, c'est-à-dire que fallait monter, continuer le niveau, et après, revenir, quand t'étais en haut, revenir un poil en bas, et tu tombais sur ce mât-là. Et en fait, tu peux simplement sauter et lancer ton partenaire au-dessus.
Oui.
Et ça, tout con. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent, parce que tu te sens pas, pour le coup, là, tu te sens pas brimé. Tu te dis pas, le jeu, il a voulu que tu le fasses comme ça, donc tu le feras comme ça. Non, si t'es assez malin pour capter que... Je me jette des fleurs. Si t'es assez malin pour capter que tu peux sauter et envoyer ton camarade vers le haut, bah, y a pas de problème. Genre, tu chopes la pièce, t'as compris ce qu'on voulait te faire comprendre, machin, tu vois.
Oui, non, mais tout à fait. Mais le jeu t'offre quand même plusieurs possibilités. Maintenant, ce qu'on disait en tout début de sujet sur Donkey Kong Country, les secrets sont vraiment bien planqués. C'est-à-dire que les secrets pour les découvrir, c'est pas seulement. Il y a déjà, il faut arriver à les voir, et même quand ils sont évidents, parce qu'effectivement, t'as une flèche en forme de. T'as
une banane. Ouais.
T'as des petites indices, des bananes qui forment une flèche en main. Il faut arriver à comment dire. À faire le
ouais,
taf, quoi.
À discerner, quoi. À discerner.
À savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, avoir le timing, avoir l'exécution. C'est pas si évident que ça. Les secrets sont vraiment bien planqués. Contrairement à un Donkey Kong Country Returns ou un Donkey Kong Country Tropical Freeze,
dans quel endroit. Voilà, le
non,
demi-shaming.
Mais pas du tout.
Non, c'est une évolution du truc.
C'est une évolution du truc. Où là, finalement. On va plus récompenser le joueur qui va effectivement aller farfouiller dans les coins que le joueur qui va aller voir un truc un peu bizarre et avoir le skill ou l'idée de penser qu'il pourrait faire ça. On va pas aller récompenser les gens de la même manière.
Oh oui, non, mais totalement. Moi, je me souviens de quand j'étais quand j'étais petit.
Tu n'étais pas grand.
Oui.
Voilà. Il y a quelques mois, donc.
Non, mais il y a 10 ans quand même, je suis vieux. Sur Donkey Kong Country Returns, vient de quelques lettres, de quelques lettres que j'arrivais pas à choper. Mais je me souviens encore que je me disais que c'était juste parce que j'étais pas assez bon, tu vois. Il y a vraiment des endroits où fallait la plateforme, fallait vraiment la choper et fallait vraiment avoir compris comment le saut y marchait et où est-ce que tu pouvais sauter à la dernière minute pour choper la lettre. Et alors que je l'ai pas refait, je me souviens vraiment de ça. Donc c'est que ça devait être très bien fait, quoi, et vraiment explicite.
Tout à fait. Là, il y a des fois où c'est beaucoup moins explicite. Et effectivement, quelques lettres, je me suis dit, mais comment on fait pour la choper celle-là ? Parce qu'il y a pas de plateforme au-dessus, il y a pas de plateforme en dessous. Alors il y a un ennemi, ok, mais il faudrait sauter sur l'ennemi. Quand on saute sur l'ennemi avec le bon truc, on rebondit pas assez haut. Il y a vraiment des quelques lettres. Je me suis dit, mais comment on fait pour la pécho ? Et en fait, je pense que c'est simplement parce que j'ai pas le truc, quoi, projeter le mec au bon moment, enfin j'en sais rien. Il y a vraiment des trucs sur lesquels ça exige finalement d'aller un peu au-delà de ce qu'on t'offre dans le gameplay de base, ce qui est pas du tout le cas d'un Tropical Freeze, dans lequel effectivement si t'as vu quelque chose, c'est évident que tu vas arriver à le choper, c'est juste une question de skill finalement. Là, oui. on te demande de pas forcément de réfléchir, mais on te demande d'être un peu plus malin que ça, de te dire comment est-ce que je peux baiser le jeu pour arriver là, quoi, en gros.
Et typiquement, là, dans Donkey Kong Country, c'est fou ce que j'arrive à parler sur ce jeu alors que j'ai fait qu'un niveau et demi.
C'est du... Putain, mais Julien Chiez...
Bonjour, je vais finir chez jeuxvideo.com
à pouvoir parler autant pour si peu, tu vas pouvoir bosser chez Digital Foundry.
Oh oui.
Non, oui.
Ah, Game Explain.
Pas certainement. Je connais pas. Si, je connais, mais je veux dire.
Game Explain aussi.
Mais typiquement, il y a au tout début du deuxième niveau, t'as un endroit où donc tu dois monter. Ça, tu vois que tu dois monter pour continuer le niveau. Mais à droite, t'as du vide avec une flèche en banane. La seule manière que j'ai trouvé pour choper les bananes, c'est de balancer mon pote dans le vide.
Alors que si y a une flèche, a priori, tu pouvais y aller.
Il y a un tonneau dessous.
tu peux pas. Tu... Ah, peut-être en dessous, j'avais
pas vu. Au milieu de la flèche.
Ah, d'accord. Mais en tout... et donc,
c'est une
non,
indication, tu vois.
Au milieu de la flèche, j'avais pas. Mais en tout cas, je me suis dit. Le... J'ai essayé, moi, sauter dans le vide au début. Et je me suis dit, bon, d'accord, j'ai rien vu. Alors peut-être, effectivement, il y avait un tonneau, j'ai pas fait gaffe.
Au milieu de la flèche, ouais.
Au milieu. Tiens, sérieusement?
Ouais.
Mais non, je sais pas si il y a ça quand même.
Si t'as sauté non, vide hors, au pif, t'es tombé à côté, quoi.
Il est hors champ, hein.
Ah oui, d'accord, il est pas au milieu de la flèche.
Non, non, il est hors champ, il est en dessous.
D'accord, ouf. Et donc, du coup, le seul truc que j'ai trouvé, c'est spammer. Parce que de toute façon, quand ton pote il tombe dans le vide, il tombe dans le vide, il revient. Oui. Et donc, du coup, tu le jettes jusqu'à choper toutes les bananes de la flèche. Et t'es content parce que t'as chopé tes bananes. Ton pote est mort, certes. Je veux dire, mais est-ce que tu, finalement ça vaut pas le coup? c'est un mal pour un bien.
C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Bref, on va peut-être s'arrêter là, les kikis, parce que ça commence à faire long. Et je suis presque, à court de musique, là, donc il va falloir arrêter.
Ok.
Ah, terrible.
Eh bien, écoutez, merci de nous avoir suivis. Je suis content d'avoir eu cette petite discussion sur Donkey Kong Country, surtout d'un point de vue level design et tout ça, parce que Galaxy a amené des points tout à fait pertinents.
Ah, c'est intéressant, du coup.
Et c'est intéressant, de toute façon, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui n'a pas joué à... qui n'a pas du tout cet aspect nostalgique et qui juge finalement le jeu pour ce qu'il est.
Il n'a pas joué au jeu.
Non, mais...
Attends, je suis désolé. T'es parfaitement capable de faire le premier feu de Dark Souls et de dire chef-d'œuvre 17 sur 20.
Oui, c'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait. Et puis après, je m'en suis vanté sur Twitter. Oh, je l'ai fini 6 fois. Ouais. Génial, trop facile.
New Game Plus 7.
C'est comme ça que les gens testent les Metal Gear. Hein. Ils font le début, ils disent chef-d'œuvre. Et...
En fait, ils se rendent pas compte à quel point c'est chiant.
Voilà. J'ai pas fini le tuto, hein, Dark Souls.
Je peux pas. Ah, putain.
Ça m'a saoulé. Hein. Je suis arrivé sur le pont avec la grosse bête. J'ai fait OK, bonne soirée. J'ai retourné sur Adibou. Ça va
prendre les first, oui, voilà, ça ira mieux.
Dark Souls, Dark Souls.
Bon, bref, nous on se retrouve la semaine prochaine où normalement nous devrions parler de préservation du patrimoine vidéoludique.
Yes.
Ah putain la vache, le gros sujet qui fait super.
Vous avez 4 heures.
Et nous recevrons un invité exceptionnel.
Yeah.
Que va falloir qu'on lise tous son bouquin avant pour être sûr de ne pas passer pour des cons.
Il est très bien, apparemment.
Attention, il y a un terreau.
Attention, il y a un terreau. Voilà, donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. On vous fait des bisous.
T'as pas dit qui c'est?
Ciao tout le monde. J'ai pas dit qui c'est parce que je vais gagner la surprise.
Ah, d'accord. Mais on dit pas que c'est Julien Chiez, alors.
Ce serait tellement mon rêve, en vrai.
Mais oui.
Mon rêve secret. Mon invité secret, Julien Chiez.
Fallait inviter Stéphane Bern.
Bon. Voilà, bisous tout le monde, à la semaine prochaine, ciao.
Bisous.
Salut.